ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette émission, Alex nous a concocté une série sur Charlie Parker. Charlie Parker, à peu près tout le monde connaît, mais c'est quand même un des grands génies de l'histoire du jazz et il y a toujours des choses à apprendre. Alors bonjour Alex, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur Charlie Parker ? Alors,
bonjour Laurent, bonjour amis auditeurs de Comme à la radio. Alors Charlie Parker, c'est bon, un saxophoniste, tout le monde le sait. On sait peut-être moins qu'il est, comme beaucoup de géants, mort relativement jeune. Donc nous allons commencer de manière chronologique par sa naissance. Alors Charlie Parker, qui est surnommé aussi Yardbird ou plus fréquemment Bird, est un saxophoniste qui est le fils unique d'un pianiste. Hein. Charles Parker est d'une jeune Amérindienne qui est née en 1920 à Kansas City. Alors, Kansas City, c'est une ville où le jazz, le blues et le gospel sont très, très présents, de même que le jeu, la marijuana et l'alcool. Donc, Charlie Parker vit dans ce milieu un peu interlope. Il commence à jouer du saxophone à 11 ans, à 14 ans. Il rejoint l'orchestre de son école, mais comme il n'a jamais appris vraiment à jouer du saxophone, il jouait tout seul, il a rapidement été exclu de l'école. Et il a fait plusieurs expériences de concerts qui finissaient en rire, en colibé. Il en a été profondément blessé, il a arrêté de jouer avec ces orchestres-là et il a travaillé tout seul pendant 3 ou 4 ans, à l'âge de 17 ans, il travaillait 15 heures par jour et il va devenir un virtuose de son instrument.
Et oui, et on va écouter l'une des toutes premières séances d'enregistrement auxquelles il a participé, avec quelques notes seulement, mais quelques notes éblouissantes. C'était en 1942 dans l'orchestre de Jay Mishan et ça s'appelle The Jumpin' Blues.
Boys and I want to do one of our favorite tunes for you. It's called Jump the Blues.
Jumpin' Blues par l'orchestre de Jay Mishane. On entend quelques notes effectivement de Charlie Parker. Alors, dans cette tonalité très très Count Basie, hein, puisque Kansas City c'était la ville du Count, et on a déjà l'illustration de quelque chose de différent avec ce qu'on entend de Parker et qui va s'amplifier quand il va arriver à New York.
Alors, à New York, il y arrive déjà en 1939. Mais il arrive comme plongeur. Et comme plongeur dans un restaurant qui s'appelle Jimmy Chicken Shack. C'est un restaurant surtout où se produit le pianiste Art Tatum. Et effectivement, lorsqu'on écoute beaucoup de morceaux de Charlie Parker, lorsqu'on écoute ses phrases, il va garder toujours des réminiscences d'Art Tatum qu'il a écouté pendant des mois. Il revient à Kansas City en fait, pour l'enterrement de son père. Il participe à quelques jam sessions dans l'orchestre de Count Basie où on se mesurait entre solistes, et il se fait engager, comme tu viens de le dire, par Jay Mishane dans un orchestre, et il part en tournée, il retourne à New York, et c'est là qu'il participe en parallèle à cet orchestre, à des jam sessions, avec des petits jeunes dont on entendra parler un peu plus tard, avec Dizzy Gillespie, un trompettiste. Avec Thelonious Monk au piano, avec Charlie Christian, un guitariste, Max Roach et Kenny Clarke à la batterie. Et donc ce sont des jeunes bebopers. Alors le bebop, on en reparlera peut-être un petit peu plus, mais selon Monk, le bebop, c'est la musique qu'ils ne peuvent pas jouer. Quand il dit qu'ils ne peuvent pas jouer, il montre les musiciens blancs des grands orchestres de swing. Donc ils veulent faire une musique que les musiciens blancs ne pourraient pas jouer. Et en même temps qu'il côtoie ces grands musiciens, malheureusement, il a aussi une intensification de sa consommation de drogue et d'alcool.
Et donc, puisqu'on commence à parler du bebop, on va écouter l'un des thèmes fétiches qu'a joué Parker et sa bande, qu'ont joué Parker et sa bande. C'est une version de 46 en jam session avec Benny Carter, Nat King Cole, Buddy Rich, une version de Cherokee. Thank you. Cherokee, fabuleuse version en jam session, donc enregistrée par Charlie Parker, dont nous parlons aujourd'hui avec Alex dans notre émission Comme à la radio, votre émission de jazz hebdomadaire sur RCF Côte d'Azur. Et on a commencé tout à l'heure à parler un petit peu du bebop. Alors Alex, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette forme de jazz ?
Alors le bebop, c'est un style qui a émergé comme ça d'un petit peu de manière subite à partir du thème fétiche de Bird Cherokee que nous venons d'écouter. Alors le bebop, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les morceaux traditionnels de jazz. Ils reprennent des titres classiques, mais avec une harmonisation plus riche. Par exemple, sans entrer trop loin dans la technique, on joue avec les notes altérées des accords. Un accord normal auquel on va ajouter une note de 9e ou une 13e. Et c'est Charlie Parker qui raconte dans les années 50 à un journaliste qu'il a inventé le bebop en travaillant l'improvisation de Cherokee, en arrivant enfin à jouer la musique qu'il entendait sans parvenir à la produire avec l'exploitation de ces notes altérées au niveau des accords. Donc ils improvisent sur une harmonie qui devient de plus en plus complexe, avec un 4 rythmique également complexe. Et les premiers enregistrements sont faits effectivement avec les orchestres autour de Charlie Parker et un partenaire à sa mesure qui est Dizzy Gillespie. Avec des morceaux qui, au-delà de Cherokee, sont des morceaux comme Salt Peanuts, qui est resté célébrissime, Now's the Time, Billy's Bounce. Et il s'amuse aussi à inventer des morceaux sur les mêmes harmonies. Par exemple, le célèbre Coco, avec Miles Davis, a été en fait écrit tout simplement à partir de cette harmonisation. Et à partir de ces phrases, de ces idées-là, le bebop va devenir un style de jazz à part entière. Il le reste encore de nos jours, mais de nos jours, j'ai le sentiment qu'il n'évolue plus. Charlie Parker a amené le style bebop pratiquement à son summum.
Et oui, les enregistrements bebop ont marqué l'histoire. Et comme tu le disais, la rencontre entre Parker et Dizzy Gillespie a été une clé de l'évolution de cette musique. On va écouter un morceau qui s'appelle Dizzy Atmosphere. Thank you. Dizzy, atmosphère magique. Charlie Parker, Dizzy Gillespie. C'est sublime, c'est une musique qui paraît couler de source, même si à l'époque elle était très originale. On sent une espèce de continuité dans les thèmes qu'on a entendus depuis le début de cette émission que tu lui consacres, Alex. Mais finalement, Charlie Parker, c'était pas si linéaire que ça, parce que dans le même temps, sa vie, elle était, disons-le, bien pourrie, quoi.
Oui, c'était compliqué. Il y a eu donc cette session d'enregistrement. Il y en a eu deux autres dans la foulée jusqu'au mois de novembre. Et c'est après la dernière session où ils ont enregistré Dizzy Atmosphere, mais aussi Now the Times, Billy Bounce, tous ces morceaux magiques, que Gillespie et Parker se séparent. Et ils se séparent aussi parce que tout ne se déroule pas de manière aussi simple, aussi linéaire, aussi idéale. Et l'une des raisons est sans doute un comportement de plus en plus instable de Charlie Parker, parce qu'on l'a vu au début, Charlie Parker a trop goûté à la drogue, il a trop goûté à l'alcool depuis son adolescence. Il a donc cette addiction aux opiacés qui était peut-être courante aux artistes de l'époque. Il ne l'a pas inventé, il a suivi une mode entre guillemets. Mais maintenant, il se soucie plus de l'obtention de ses doses plutôt que d'arriver à l'heure ou même d'assurer des concerts ou des sessions d'enregistrement. Ce que l'on voit bien dans un film que je vous conseille de voir ou de revoir, qui s'appelle Bird, un film de Clint Eastwood où on comprend bien tout ce qui s'est passé avant un séjour de 6 mois à l'hôpital psychiatrique de Camarillo.
Et oui, et donc fin novembre 1945, Dizzy n'est plus là et donc comme par hasard, Charlie Parker va enregistrer avec un tout jeune musicien dont on va un petit peu entendre parler par la suite. On va écouter un des thèmes favoris de Parker qui s'appelle Yardbird Suite. Mais ce musicien, c'est tout simplement Miles Davis. Il avait 19 ans.
Thank you.
Yardbird Suite, Charlie Parker, avec Miles Davis, tout gamin. Bon, on ne va pas s'appesantir trop sur les périodes difficiles de Charlie Parker. On va finalement rester sur sa musique, celle qui nous a été transmise, qui nous reste et qui restera. Et on va parler un petit peu du sommet de sa gloire, finalement.
Oui, donc il sort de Camaríu et dès 1946, il participe au concert du JATP, Jazz at the Philharmonic, organisé par Norman Granz. Il se produit aux côtés de l'idole de sa jeunesse, Lester Young. Il vient aussi en France, à la salle Pleyel. En 49, il enregistre avec un orchestre à cordes. Ce n'est peut-être pas ce que les amateurs de jazz préfèrent, mais ça va lui permettre en tout cas de vendre des disques et de faire connaître le bebop et sa musique. En 51, problème que l'on voit aussi bien dans le film Bird là, de Clint Eastwood, on lui retire sa carte de travail. Parce qu'il sait, il a eu des démêlés avec les patrons, les impresarios, il n'était pas toujours facile. On lui interdit la carte, ça veut dire qu'il ne peut plus jouer dans les clubs. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de musique, et au contraire, il retrouve à ce moment-là ses vieux complices Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, pour l'enregistrement du disque Burt and Deeds. En 53, il continue à jouer. Et il est avec aussi de vieux complices, Dizzy Gillespie à la trompette, Bud Powell au piano, Mingus à la basse, Max Roach à la batterie, excusez du peu. Et au début des années 50, il est au sommet de sa gloire. Il est vraiment bien connu et il mourra, on va dire, tranquillement en regardant la télévision. Mais malheureusement très jeune, puisqu'il avait 34 ans. Chez la baronne Panonica de Königswarter, qui, on s'en souvient peut-être dans une précédente émission, accueillait également Monk.
Eh bien, on va illustrer cette période finale de l'activité de Charlie Parker avec donc un morceau fétiche, lui aussi, le célèbre Salt Peanuts de Gillespie, avec cette bande donc, hein, de Gillespie, Max Roach, Bud Powell et Charlie Mingus. Et c'est sur ce morceau que nous quittons et nous disons au revoir à nos auditeurs en leur souhaitant une bonne suite d'écoute avec RCF Côte d'Azur. Au revoir à tous. Au revoir Alex.
Au revoir à tous et rendez-vous lundi et samedi prochain. I sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.
Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the salt peanuts.